François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebrun, vous êtes professeur associé à Sciences Po et nous allons évoquer avec vous ce soir plusieurs sujets, à commencer par le sport et la politique alors que se déroule la Coupe du Monde de football au Qatar. Alors voilà deux domaines solidement imbriqués à bien des niveaux. Qu'il s'agisse d'économie, d'histoire ou de géostratégie, ce lien s'est tissé et même largement renforcé au fil des décennies. Conséquence, le sport devient un théâtre d'expression, parfois même d'opposition idéologique qui va bien au-delà de la vertu symbolique et au sein des régimes autoritaires, le sport est comme un opium dont on prend bien soin de ne jamais réellement se couper.
Pierre, comme souvent, nous sommes d'accord, vous et moi, ça fait plaisir. Mais par contre, nous sommes tous les deux en désaccord avec le président de la République et le ministre de l'Intérieur.
Pourquoi ?
Le président de la République, Emmanuel Macron, est allé voir l'équipe de France de foot avant qu'il s'envole pour le Qatar et il a déclaré « Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport ». Et Gérald Darmanin, qui lui était à l'inauguration de ses Coupes du Monde au Qatar, a déclaré « Le sport est une compétition qui doit se tenir en dehors des enjeux politiques ». Mais comme vous l'avez bien dit, depuis l'avènement du sport-spectacle et de sa diffusion par des moyens de communication de masse, les grandes manifestations sportives sont devenues une arme de propagande des régimes totalitaires. Dans la construction de l'image de ces régimes, ces compétitions permettent de rassembler des foules immenses, de magnifier le culte du corps, de développer des parallèles guerriers et de promouvoir les valeurs nationales et de réussite de ces régimes. Et en fait, il suffit de se pencher un peu sur l'histoire des grandes compétitions sportives. Je m'intéressais aux Coupes du Monde de football, justement, et aux Jeux Olympiques, et pour me donner un certain nombre d'exemples, pour montrer que le sport a toujours été politisé, et encore plus quand on organise ces compétitions sportives dans des régimes autoritaires, voire dictatoriaux. La première chose, c'est la deuxième Coupe du Monde jamais organisée au monde. Elle a été organisée en 1934 en Italie, sous le régime fasciste de Mussolini. Mussolini, qui n'hésitait pas à mettre sur les affiches du championnat du monde un footballeur faisant le salut fasciste. Et puis après, deux ans plus tard, en 1936, ça tout le monde s'en rappelle, les Jeux de Berlin sont organisés, ça avait été attribué à l'Allemagne démocratique en 1931, mais quand Hitler prend le pouvoir en 1933, le comité olympique, où il y avait énormément de nazis au sein du comité olympique, ça a toujours été une organisation assez d'extrême droite, et notamment le président du comité olympique américain, Avery Brundage, était un sympathisant de Hitler, un sympathisant nazi. On viendra d'ailleurs à cet horrible personnage. Et le comité international olympique déclara en 1935, on disait il ne faut pas faire organiser les Jeux à Berlin, le CIO s'occupe uniquement de sport amateur, il ne doit pas se laisser entraîner dans les controverses raciales, religieuses, sociales et politiques d'aucune sorte. Et donc les Jeux eurent lieu à Berlin devant des foules enthousiastes qui faisaient le salut nazi. Par ces exemples, on peut revenir aussi à ce qu'a déclaré Gérald Darmanin. C'est intéressant ce qu'il a déclaré à Doha. Il a dit que c'est par ce genre d'événement qu'on va les faire évoluer. À partir du moment où on a choisi un pays pour organiser un événement international comme la Coupe du Monde, il faut accompagner ce pays. Pourtant, le Qatar est une monarchie absolue où les partis politiques sont interdits, la charia est appliquée, c'est un régime islamiste qui est un soutien actif de l'organisation terroriste des Frères musulmans et proche de la dictature islamiste iranienne. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Qatar évoluera comme les pays qui ont organisé ce type de compétition sportive ? Est-ce qu'ils vont bien évoluer ? Eh bien, en 1935, un an après l'organisation de la Coupe du Monde de football, l'Italie a envahi l'Éthiopie. En 1938, deux ans après ces Jeux, l'Allemagne nazie annexe l'Autriche, démantèle et envahit la Tchécoslovaquie, puis un an plus tard lance la Seconde Guerre mondiale. En 1978, la dictature argentine organise la Coupe du Monde de football, bien que depuis deux ans, des dizaines de milliers d'opposants sont massacrés. Le général Videla, exultant, remet la Coupe à son équipe. Quatre ans plus tard, l'Argentine envahit les Malouines anglaises. En 1980, les Jeux Olympiques se tiennent à Moscou, et pour une fois, l'aventure impérialiste a commencé avant, puisque depuis six mois, l'URSS a envahi l'Afghanistan. En 2008, c'est les JO de Pékin qui permettent d'affirmer la toute-puissance de la Chine, renforcer sa mainmise sur le Tibet occupé, persécuter les Ouïghours et puis à partir de 2014, annexer complètement Hong Kong. En 2014, plus près de nous, la Russie envahit la Crimée et l'annexe cinq jours après la fin de ses Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi. Puis en avril, lance sa première invasion du Donbass. Et puis en 2018, la Russie toujours attend la fin des Jeux Olympiques de Pékin pour annexer la Crimée. Et en 2022, quatre ans plus tard, comme on l'a vu, ils envahissent l'Ukraine. Et puis revenons à un sujet que vos auditeurs connaissent bien, les Jeux Olympiques organisés cette fois dans un pays démocratique, l'Allemagne de l'Ouest en 72, où à nouveau on nous a servi la tarte à la crème, ne politisons pas le sport. Justement, le président du comité olympique, c'était cet Américain pro-nazi, Avri Brundage. Après l'assassinat des 11 athlètes israéliens par des terroristes palestiniens, il déclara que les Jeux devaient continuer. Et puis le lendemain, lors du match de reprise, une banderole apparut, portant l'inscription « 17 morts », déjà oubliée. Des agents de sécurité saisirent et expulsèrent les spectateurs qui l'avaient déployé. Oui, il ne faut pas politiser le sport.
L'antisémitisme, François Heilbronn, explose aux États-Unis et pas seulement dans les discours politiques ou chez de pseudo-artistes. En novembre dernier, un site américain a interrogé plus de 1000 responsables du recrutement sur leur vision des candidats juifs pour des postes qu'ils proposeraient et leur perception de l'antisémitisme sur le lieu de travail. Et les réponses sont dramatiques.
Je suis tout à fait affolé comme vous. C'est une enquête menée par resumebuilder.com, donc un site spécialisé dans les recrutements, qui a interrogé 1131 managers, je dis bien managers, chefs d'entreprise américains, et des responsables de recrutement. Et ils ont posé des questions sur le recrutement de juifs. À ma grande surprise, et pas si grande surprise, parce que j'ai vécu un peu aux États-Unis, même 4 ans aux États-Unis, un certain temps, et effectivement, l'antisémitisme est assez latent, et évidemment, ce que vous voulez rappeler, les propos de Kanye West ou de Nick Fuentes récemment ont enflammé la toile, ont enflammé aussi la presse américaine, mais ça, c'est le haut de l'iceberg, et là, voyons en dessous de l'iceberg ce qui se passe. 26% des recruteurs disent qu'ils vont éviter d'avoir à recruter des juifs. Pour quelle raison principale ? Parce qu'ils ont peur que ceux-ci puissent développer trop de pouvoir et de contrôle au sein de l'entreprise. 26% donc, un recruteur sur 4 va écarter de ses candidats possibles de recrutement parce qu'ils ont peur qu'en recrutant des juifs, que ceux-ci développent trop de puissance, de pouvoir et de contrôle sur l'entreprise. Alors comment savent-ils qu'ils sont juifs ? Ben, 26% font des hypothèses sur le fait qu'un candidat est juif sur leur apparence physique. Donc effectivement, ils sont très doués, ils ont des systèmes de détection. 23% disent qu'ils veulent moins de juifs dans leur industrie. 17% disent que leur patron leur a dit ne pas en recruter de juifs. Et 33% disent que l'antisémitisme est commun dans leur lieu de travail, et 29% savent que l'antisémitisme est acceptable au sein de l'entreprise. 29% que l'antisémitisme est acceptable au sein de l'entreprise. Donc, c'est des pourcentages absolument affolants. On mesure généralement aux États-Unis le niveau d'antisémitisme autour de 10-15%. Là, on voit que pourtant, parmi des cadres supérieurs, on monte vraiment sur des réflexes antisémites classiques, hein, le préjugé, la discrimination à l'embauche et à l'emploi est une discrimination très forte, et ça monte donc à un responsable sur 4. Ça doit nous alerter. J'espère que les Américains vont enfin se révéler sur leur déni face à l'antisémitisme de leur pays. L'Anti-Defamation League fait un travail formidable. J'espère que les organisations juives, à part l'American Jewish Congress, qui fait aussi un boulot formidable, vont se réveiller et vont attaquer ce sujet de plein fouet. Parce que entre les réseaux sociaux qui s'affolent, les chanteurs de rap qui chantent la gloire d'Hitler, et maintenant des recruteurs, un recruteur sur 4 ne veut pas embaucher de juifs, les États-Unis ne sont plus le petit paradis ou le petit havre de paix pour les juifs du monde entier.
Ouais. Allez, il nous reste 1 minute 30. Lundi dernier, le président Emmanuel Macron a dénoncé les crimes de l'État français lors d'un déplacement au camp d'internement et de déportation des Milles. Dans les Bouches-du-Rhône, furent retenus 10 000 prisonniers entre 1939 et 1942. L'un des plus complets parjures de la République, a déclaré Emmanuel Macron.
Très beau discours. Je me suis moqué un peu d'Emmanuel Macron sur le sport au début de notre entretien, mais là, très beau discours au camp des Milles, très fort, parce que c'était la première fois qu'un président de la République allait dans ce camp. Il faut le rappeler, c'est un camp de la zone sud qui a été opéré par Vichy tout le temps. Et notamment, je vais vous lire juste un passage, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Au total, en août et septembre 1942, donc c'était, je précise pour nos auditeurs, en août et septembre 1942, le camp des Milles qui se trouve près d'Aix-en-Provence était en zone libre. Il n'y avait pas un seul soldat allemand à l'horizon. La zone libre a été occupée par les Allemands le 11 novembre 1942. Donc, que dit Emmanuel Macron ? Plus de 2000 juifs détenus ici furent déportés vers Auschwitz via Drancy ou Rivesaltes. Le régime du maréchal Pétain administrait alors en son nom une zone dite libre. Cette France était exempte du joug des nazis. Ces derniers, parmi leurs requêtes, n'avaient pas exigé que les enfants soient inclus dans ces rafles. Pierre Laval en avait seul pris l'initiative. Les juifs déportés par la police, obéissant à ses ordres, furent les victimes d'un régime forgé par l'antisémitisme. Oui, ces juifs furent des victimes délibérées de l'État français. Au camp des Milles, la France aux mains de Pétain, et Laval s'est de nouveau perdue. Elle a raturé les principes de 1789. Si la République a été brisée à Bordeaux, en forêt de Compiègne, à Montoire, c'est aux Milles qu'elle connut comme aux Veldives l'un de ses plus complets plargures. Ici, ce fut la trahison par le régime du régime de Vichy du droit d'asile. Les réfugiés devinrent des otages. Ce fut l'antisémitisme d'État, incarné par des barbelés et des lois iniques. La haine pour les juifs, des collaborateurs, ne s'arrêta pas à la nationalité de leurs victimes. Et si vous me permettez encore, juste une citation forte aussi sur les conclusions politiques qu'il tire de cette visite du camp des Milles, que j'encourage d'ailleurs tous vos auditeurs à aller visiter, qui est absolument passionnant comme musée mémorial qui fêtait ses 10 ans. L'antisémitisme, le racisme ou toute forme de rejet porte en elle l'anéantissement de toute humanité, comme la nuée porte en elle l'orage. Celui qui veut purifier au nom de son ethnie, de sa nation, de sa religion, commence par des outrages, poursuit par des incarcérations, termine par des assassinats. À tout moment, cette escalade de la haine, dans le camp des Milles fut un exemple, Pierre, et dont il reste le témoin aujourd'hui. Et là, ce passé advenu permet aussi d'éclairer notre avenir, car il ne tient qu'à nous de résister à ceux qui falsifient l'histoire, feignent d'adopter la République tout en trahissant ses valeurs. Ici, aux Milles, la France a été telle qu'elle ne doit plus jamais être. Et si nous sommes ici 80 ans après la déportation des Juifs des camps des Milles, c'est pour dire non, que notre nation doit être la voie de l'humanisme, de l'état de droit, du refus de la haine. Donc c'est un discours très fort, très beau, je vous encourage à découvrir sur le site de l'Élysée, et puis aussi en vidéo sur YouTube et sur le site du camp des Milles, parce que c'est un discours important qui complète d'ailleurs le discours très fort qu'il a prononcé aussi lors de l'inauguration de la gare de Pithiviers, nouveau site mémorial du mémorial de la Shoah, une gare dont sont partis 6 convois directement vers Auschwitz.
François Heilbronn, merci d'avoir été avec nous en direct sur Radio Shalom, vous qui êtes professeur associé à Sciences Po. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.